Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Et avant une soirée très très foot hein, ce soir avec ce match de barrage tout à l'heure à partir de 19h entre Auxerre et Saint-Etienne, je vous rappelle que l'un de ces deux très historiques clubs français, il n'y a qu'une place pour être en Ligue 1 l'année prochaine. C'est Cyril de la Morinerie qui vous rejoindra tout à l'heure à Geoffroy Guichard. Débat entre Saint-Etienne et Auxerre, débat sur la politique. Bonsoir à vous Frédéric Dabi.
Bonsoir.
Directeur de l'Opinion à l'IFOP, bonsoir à Prisca Thévenot.
Bonsoir.
Vous êtes candidate dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, candidate pour Ensemble, et vous êtes porte-parole de ce grand mouvement qui désormais rejoint Renaissance, Horizon et le Modem. Pour des raisons d'Arcom, je cite vos concurrents dans cette 8e circonscription des Hauts-de-Seine, Frédéric Schneider d'Hiver, Annie Larocque-Comois pour LFI, Laurence Labbé pour les écologistes, Chantal Tarane pour Reconquête. On vient justement d'avoir Nicolas Bay de Reconquête, Olivier Mario Michel Pitoni pour la droite, Philippe Hénic pour divers extérieurs gauche, pour les LR c'est Cécile Richer ou Richèze, Richer, merci, Sarena Habib pour le RN et Miron Cusa pour le mouvement d'hommes animaux. Nature, voilà, j'espère que j'ai tout bon et pardon d'avoir écorché des noms si jamais c'est le cas. Vous vouliez dire un mot de tennis, non Frédéric Dabi? C'est absolument incroyable ce qui se passe en ce moment sur le cours central.
Oui, c'est assez incroyable. C'est peut-être un passage de témoin, même si Rafael Nadal a réussi à renverser un peu la vapeur. Il était mené à 7-0, un break, et là il y a un set partout, un break d'avance pour lui. Mais effectivement, c'est peut-être un passage de génération avec un grand espoir de la next gen, comme on dit, next gen et Nadal et son 13e titre.
Le tennisman Frédéric Dabi, Prisca Thévenot et Frédéric Dabi, il s'est passé quand même quelque chose de grave hier au Stade de France avec ces hordes de Britanniques et pas que, évidemment, aux abords du stade. Ce moment qui devait être du rêve, de la magie, quelque chose d'exceptionnel, une Ligue des Champions, une finale de la Ligue des Champions que Paris a récupéré. Ça devait se tenir quand même à Saint-Pétersbourg et pour les raisons qu'on sait, évidemment, c'est Paris qui a récupéré. Demain, réunion pour, on le disait, voir quels ont été les dysfonctionnements. Quelle est votre réaction, vous, Prisca Thévenot, quand vous voyez ça hein?
De façon très claire, la fête a été gâchée. La fête a été gâchée pour tout le monde, pour les supporters, pour les joueurs eux-mêmes, mais également pour le moment que tout le monde attendait et qu'on attendait au-delà même de la France, dans le monde, en Europe. Et donc, c'est la raison pour laquelle, tout de suite, plutôt que de se dire et de se larmoyer, il faut pouvoir analyser les conséquences et pourquoi nous en sommes arrivés à de telles images, à de tels événements. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, réunit demain l'UEFA, la FFF et l'ensemble des parties prenantes, que ce soit la préfecture de police, mais également les organisateurs du Stade de France, pour voir comment faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Pourquoi ? Parce que dans 2 ans, nous avons l'organisation des JO24 qui seront un grand moment sportif et qui doivent être aussi un grand moment de fête.
Prisca Thévenot, vous avez entendu Nicolas Bay tout à l'heure dire c'est la racaille qui est fautive. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je réponds que encore une fois, le Rassemblement national pointe du doigt, mais ne trouve
là,
pas.
Là, c'est Reconquête.
Reconquête, pardon, excusez-moi. C'est vrai, vous
avez
raison.
C'est vrai qu'on a eu l'habitude de voir Nicolas Bay pendant de nombreuses années au Rassemblement national. Je pense qu'on est.
Non, mais vous avez raison. C'est important de rappeler Nicolas Bay en tout cas. Il s'agit de pointer du doigt, mais pas de trouver les conséquences de ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, encore une fois, il ne s'agit pas de trouver une excuse pour encore essayer de faire de l'opposition au gouvernement à Emmanuel Macron, puisque j'ai pu l'entendre effectivement sur sa prise de parole. Je pense que l'enjeu dépasse les partis politiques, l'enjeu est sportif. Donc il faut trouver les raisons de ces incidents d'hier qui sont extrêmement graves, qui sont choquants, et faire en sorte que ça ne se reproduise plus.
Frédéric Dabi.
Oui, c'est vrai que c'est un coup dur, parce qu'il y avait une confiance des Français dans la capacité de la France à organiser des grands événements. 98, 2016, je note que pour l'Euro de foot de 2016, les seuls incidents graves, c'était avec des Anglais. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, c'était à Marseille, une partie du Vieux-Port avait été dévastée. C'est vrai que quand on interroge les Français, on avait fait des enquêtes, alors c'était il y a un peu plus d'un an, sur leurs craintes s'agissant des Jeux Olympiques. Il y a une crainte liée aux attentats, il y a une crainte liée au désordre, et effectivement, hier, c'était un désordre absolument inadmissible, plus que la question du coût des JO ou de la dette liée aux JO, alors qu'on sait qu'il y a des villes qui ont organisé des Jeux Olympiques qui ne s'en sont pas remis, Montréal, Athènes, etc. Maintenant, c'est vrai que cette question entre dans le jeu politique, puisque et Marine Le Pen d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre ont tirer profit, si je puis dire, des incidents d'hier pour attaquer la majorité, pour fustiger la police du côté de Jean-Luc Mélenchon et des bandes de jeunes de Seine-Saint-Denis du côté de Marine Le Pen. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a eu, le gouvernement et les autorités sportives seront attendus parce qu'on a parlé de 2024. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, la Coupe du Monde de rugby en 2023. Mmh. Il y a eu quand même un contraste incroyable entre la fête du côté de La Rochelle hier soir jusqu'à 3h du matin et ce qu'on a vu hier au Stade de France.
Pardonnez-moi, c'est quand même toujours navrant de voir qu'il faut attendre un accident pour mettre un rond-point, si j'ose dire. C'est toujours pareil.
Oui, puis là, il y a un sujet qu'il faut regarder aussi de plus près. Attendons de voir ce qui sera dit demain lors de cette réunion au ministère des Sports et des JO 24. Mais il y a aussi un sujet sur les faux billets. Parce que là, le sujet des faux billets qui est assez récurrent en général est assez massif cette fois-ci. Puisqu'il y a des gens qui effectivement arrivaient en savant pertinemment qu'ils avaient un faux billet et d'autres qui ne le savaient pas. Mais ça a créé une telle marée humaine avec des faux billets que là aussi on doit se poser la question parce que ça peut être un sujet d'engorgement. Alors,
le commissaire Le Barre a dit tout à l'heure que la raison principale c'est que les Anglais avaient imposé une billetterie papier. Et que normalement, avec le numérique, évidemment, il y a moins de fraude.
Et Roland Garros, pour prendre un exemple local, ça fait maintenant des années qu'il n'y a plus beaucoup de marché noir, alors que c'était une véritable plaie parce que ce sont des billets nominatifs et tout se fait de manière électronique. Alors,
c'est assez simple en 2022 de faire ça.
Mais au moins, il n'y a pas de risque de fraude ni d'incident.
De risque de fraude, mais aussi pour la sécurité de l'événement. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous servir de tous les outils nécessaires pour assurer que ces événements soient des moments de célébration pleins et entier.
On va parler de la politique, peut-être du nouveau gouvernement. Tiens, on a un gouvernement qui vient de se former, qu'on n'entend pas beaucoup. Je sais qu'il y a une réserve électorale pour les ministres qui ne prendront la parole qu'après les législatives. Cependant, certains ont pris la parole quand même. Et puis, il y a le cas Abad, qui, j'ai l'impression, Frédéric Dabi, dans le storytelling médiatique, freine tout le reste.
Alors, je pense qu'il y a quand même un décalage entre la focalisation médiatique et l'intérêt des Français. Je fais une petite parenthèse dans les conversations des Français.
C'est pour ça que j'ai posé ma question comme ça.
Du baromètre IFOP fiduciaire pour match, on voyait que l'affaire Tahabouaf était le sujet dont les Français avaient le moins parlé. Mais c'est vrai, et là je vous rejoins Pierre, que cette affaire crée une sorte de brouillage. Et c'est vrai que quand
la ministre Tahabouaf.
Oui, non mais tout à fait. Oui, mais voilà. Et il y a un véritable brouillage. Et c'est vrai que le contexte est différent de 2017. 2017, le gouvernement, le nouveau gouvernement, avait envoyé des messages clairs. Un homme de droite à sa tête, c'était les premières paroles prononcées par Édouard Philippe, donc pour faire venir de la droite, un enthousiasme lié à la victoire d'Emmanuel Macron, une feuille de route très claire. Là, c'est vrai que les Français, et c'était dans notre enquête IFOP JDD d'aujourd'hui, qui est plutôt... qui n'est pas mauvaise pour Elisabeth Borne, 45% de personnes satisfaites, 43% de mécontentes, elle fait beaucoup plus que ce que faisait Edith Cresson en 91, elle est un peu en dessous de Jean Castex, mais il n'y a pas, je dirais, de message clair et d'action visible qui pourrait entraîner ce qui est absolument le nerf de la guerre pour cette élection législative, toujours gênée par sa proximité avec la présidentielle, de la mobilisation.
Oui, alors que Raphaël Nadal, pardonnez-moi, mais on est quand même à Roland Garros, je dois vous le signaler, on est à 5-2 dans le troisième set, donc il est à 40-0 pour là, et il sert, et il est à deux doigts de remporter ce troisième set qui ferait deux manches à une. Et c'est fait. Donc à l'instant, voilà, donc deux manches à une. Friska Thévenot, revenons à la politique et pardonnez-moi cet aparté tennistique, mais nous sommes quand même là, ici à Roland-Garros. Le président de la République, qui est toujours prompt, et c'est le syndrome du meilleur élève, prompt à défendre ses choix, à défendre ses compositions gouvernementales. On ne l'a pas du tout entendu sur Damien Abad. Est-ce que c'est normal ?
Alors là, il s'agit... Alors, c'est pas qu'on l'a pas du tout entendu sur Damien Abad, mais les lignes sont claires sur ce sujet. Au-delà de Damien Abad, et je vais y revenir, c'est le sujet de la parole des femmes. Effectivement, la parole des femmes sur les sujets de violence doit absolument continuer à se libérer, doit continuer à être entendue, et surtout doit continuer à pouvoir exister pleinement dans le débat politique, mais aussi et surtout d'un point de vue judiciaire. Et pour que cette parole des femmes puisse être pleinement prise en compte et avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la reconnaissance des victimes et la reconnaissance des faits, il faut que ça reste dans un état de droit. Donc, encore une fois, Elisabeth Borne s'est prononcée très rapidement dessus parce qu'elle a été interrogée par vos confrères sur ce sujet. Elle a dit, si une enquête est ouverte, on en tirera les conséquences. Pour le moment, effectivement, pas d'enquête ouverte, la justice n'est pas
saisie. Donc on ne tient pas compte des témoignages qu'on a pu lire dans Mediapart.
Bien évidemment que les témoignages, la preuve, c'est que j'ai commencé par en parler. On en tient compte, mais attention, il faut que cette parole puisse être pleinement prise en compte d'un point de vue de la justice. Et encore une fois, ces femmes ont eu elles ont eu complètement raison d'aller se rapporter à une association, en l'occurrence c'était une association féministe, et c'est très bien. Mais je pense qu'il est important que cette voix puisse continuer son chemin et, si elle doit l'être, saisie par la justice. C'est comme ça qu'on rend honneur à ce grand débat national qui a été celui du quinquennat précédent et qui est aussi celui du quinquennat actuel. L'état de droit protège et fait valoir la parole des femmes.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus, Frédéric Dabi?
Non, que c'est vrai que cette affaire brouille beaucoup cette campagne législative qui peine vraiment...
Qui déjà avait du mal un peu à... Il y avait du retard à l'allumage.
Depuis maintenant 20 ans qu'il y a cette invasion du calendrier électoral. Je rappelle,
ça fait déjà 20 ans ?
Oui, c'était en 2002 pour des premières législatives. Ça ne me rajeunit pas, c'était quelques semaines après le 21 avril. Et c'est vrai que en 2017, ça ne s'était jamais vu. L'abstention avait été majoritaire aux élections législatives. Là, on a fait une projection qui vaut ce qu'elle vaut de la participation pour 2022 avec le JDD.fr et on aurait également une abstention majoritaire. Donc tout ce qui va se jouer, c'est la mobilisation. Est-ce que la gauche NUPES peut mobiliser une gauche qui voit un nouveau récit ? Est-ce que la majorité qui va bénéficier, on le fait, d'effet de souffle, les Français qui ont voté Emmanuel Macron ne vont pas changer d'avis et il y aura une logique de continuité.
Oui, c'est le construire pour déconstruire après.
Oui, mais c'est vrai que n'oublions pas, il n'y a pas de cas où on est sur un deuxième quinquennat. Le seul point de comparaison, c'est 88, où malgré sa victoire extrêmement nette, François Mitterrand n'avait pas eu de majorité absolue, mais une majorité relative aux élections législatives.
Risca Thévenot, est-ce que vous continuez à penser, comme la quasi-totalité des gens d'ensemble, que Emmanuel Macron a été élu pour ses convictions ? Et est-ce que dans ce cas-là, il y a un élan dans l'élection législative, ou est-ce que, comme d'autres Français, vous pensez qu'effectivement ça existe, les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, parce que c'était le moindre mal face à l'opposition qui avait parlé face à lui.
Soyons très clairs, il y a deux phases dans cette élection présidentielle, il y a le premier tour et le second tour. Oui, le premier tour, c'est fondamentalement un vote de conviction. Et ça pour l'ensemble.
Voilà. Et ça, ou le vote utile.
Le vote utile, je pense, mais je laisserai Frédéric Dabi peut-être me reprendre dessus. Je pense qu'on l'a plus retrouvé.
Notamment les votants de Pécresse qui sont peut-être allés assez vite sur Emmanuel Macron.
Ou alors qui se sont abstenus, mais on l'a surtout retrouvé chez Jean-Luc Mélenchon, je pense, le vote utile. Maintenant, sur le second tour, oui, il y a eu bien évidemment ce vote encore d'adhésion, mais il y a aussi un vote de barrage au Rassemblement National. Et ça, il faut le dire, il n'y a pas de mal. Et d'ailleurs, le président de la République lui-même l'a dit lors de son discours de soir de second tour. L'enjeu maintenant, c'est de rassembler l'ensemble des Français et bien sûr ceux qui ont voté pour lui par conviction, ceux qui ont voté pour lui pour faire barrage, mais ceux aussi qui n'ont pas du tout voté pour lui, voire pas du tout voté tout court.
Et s'il n'y parvient pas ?
C'est l'enjeu. Et donc, je pense que plutôt que de se dire on ne va pas y arriver, il faut le faire. Et pour le faire, il faut être dans cette nouvelle méthode qui est vraiment cette méthode de terrain. Cette méthode qui peut paraître assez nébuleuse.
C'est une ligne de crête.
Voilà, assez dans le brouillard parce qu'on la voit un peu moins, mais elle est dans le concret parce qu'elle est auprès des gens. Donc, c'est pour ça qu'on est en permanence là sur cette campagne des législatives, sur le terrain, auprès des Français et des Françaises. Et que justement, l'enjeu, c'est de répondre à leurs problématiques immédiates, qui sont effectivement le pouvoir d'achat, l'inflation, mais aussi bien évidemment le fait que le travail continue à payer mieux.
Frédéric Dabi, c'est ça qui est difficile aujourd'hui pour la majorité, c'est de rendre attractif ce qui finalement a été, pas un effritement, mais un vote à la fois par défaut, sorte d'inertie électorale.
Sincèrement, on ne peut pas parler d'effritement, puisque Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont progressé en pourcentage et en voix au premier tour. Ce qui est quand même compliqué, c'est cette question du pouvoir d'achat, qui écrase tout, qui devient une sorte d'obsession française. Dans le baromètre IFOP JDD de ce matin, où on laisse les Français s'exprimer, je le dis très très clairement, la nouvelle méthode dont parle Risca Thévenot, on la sent un peu. On a moins de critiques sur le président qui n'écoute pas. Il y a beaucoup de verbatim.
Toutes les formations politiques parlent
de ça. Maintenant, il faut vraiment écouter et il y a une sorte de prise de conscience. Maintenant, la question du pouvoir d'achat structure tout et la petite musique de l'inaction, la petite musique de il y a un décalage entre les prises de parole des ministres, du président sur le pouvoir d'achat et le fait que concrètement, parce qu'il y a une vacance du Parlement, il n'y a pas de loi, les choses n'avancent pas, ça peut être relativement dévastateur. On se souvient en 2007, c'est un autre contexte, entre les deux tours, comme la TVA sociale avait été mauvaise pour le pouvoir en place, qui avait perdu une cinquantaine de députés entre les deux tours.
Donc c'est encore plus difficile, j'allais dire, pour la majorité à convaincre, alors que tout le monde parle de ça, c'est-à-dire qu'il y a un bilan du dernier quinquennat, Prisca Thévenot, et c'est là où vous devez être encore plus fort, c'est qu'on peut vous dire, ben oui, mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? C'est ce qui revient assez souvent.
Alors ça, je peux l'entendre tout à fait, sauf que là, quand on parle du pouvoir d'achat et notamment de l'inflation, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas fait avant. Justement, l'enjeu sur l'inflation, c'est de continuer, poursuivre un certain nombre de mesures qui ont été mises en place dès le début de cette crise inflationniste, avec notamment l'ensemble des boucliers tarifaires qui ont été mis en place, mais également la ristourne sur le prix de l'essence, des carburants. Mais là, il faut aller plus loin et aussi continuer à travailler sur les revenus, notamment les plus
fragiles. Quelque chose de structurel et non pas quelque chose de sporadique et de toute façon,
exactement,
n'a pas lieu d'être pérenne.
Exactement.
Parce que sinon, c'est la faillite de la France, vous le savez aussi bien que moi.
Eh bien, exactement. Et donc, il y a ces mesures d'urgence qui sont sur les prix dont je viens de parler, mais également des mesures structurelles sur les revenus. Typiquement, pour les plus fragiles, il y aura des mesures annoncées pour les étudiants, voir comment on peut effectivement faire en sorte qu'ils soient moins dans la précarité, parce que c'est aussi ça que nous a révélé ces dernières années, notamment la crise de la Covid. Également, nos retraités, revaloriser leur pension de retraite sur l'inflation dès cet été, mais également avoir des incitations, et j'insiste sur les incitations, parce qu'on n'oblige pas les entreprises à augmenter les salaires, on les incite, et donc il faut mettre en place des incitations financières pour que les entreprises puissent augmenter les salaires de leurs employés.
Frédéric Dabi.
La question des entreprises est absolument centrale. Il ne faut pas oublier que à l'élection présidentielle, Marine Le Pen a devancé de peu Emmanuel Macron chez les salariés du privé. Ils étaient à 50-50 au second tour. L'injustice maintenant pour les Français, c'est moins être au chômage qu'avoir un travail qui paye mal. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas une prise de conscience du côté des patrons de TPE et PME. Dans une enquête de l'IFOP, on a vu que la question de l'augmentation des salaires était absolument centrale. Donc c'est vrai que ça va être aussi l'enjeu de cette très courte campagne, puisque c'est dans 15 jours.
Merci à vous deux, merci à Frédéric Dabi, merci à Prisca Thévenot, et je laisse la place, j'allais dire physiquement, à Jean-François Pérez, puisque c'est la
grande soirée. On peut vraiment parler de passage d'antenne.
Si on nous voit en vidéo, je pense que là...